不可及，我只能。
Elle est la chargée d'affaires et responsable affaires centrales du bureau de même nom, une société belge spécialisée dans la sauvegarde et la valorisation des archives sonores. C'est la Mandaïla Guilombo est aujourd'hui l'invitée de Grand Témoin. Stella Mandaïla, soyez la bienvenue.
Merci.
Vous êtes belge d'origine congolaise. Que signifie votre nom ?
Écoutez, mon nom, je dirais tout simplement Mandaïla. Je suis d'abord originaire du Bandundu et je sais que dans le temps, il y avait une société dans le Bandundu qui s'appelait Mandaïla. Et je pense que l'origine de mon nom vient un petit peu de cette société-là qui a été un petit peu déformée et est devenue maintenant Mandaïla.
Et je peux vous dire mon nom. Et Guilombo.
Oh, Guilombo, c'est le nom de ma grand-mère. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une explication précise par rapport à ça. C'est tout simplement une femme qui était courageuse et dynamique. Et c'est pour ça qu'on m'a donné son nom. Et voilà.
Votre dynamisme, on en parlera au cours de l'émission. Commençons par parler de la société que vous représentez, Memnon. C'est quoi Memnon ?
Memnon, en fait, ça vient de la mythologie grecque, hein, qui veut dire tout simplement l'immortalité, l'éternité. Le directeur général de Memnon, il s'est inspiré de cette mythologie grecque pour dire que tout ce que nous faisons, donc la sauvegarde du patrimoine culturel et d'ailleurs la sauvegarde du patrimoine en général, ça représentait pour lui, en fait, l'immortalité et l'éternité.
Elle est basée en Belgique, la société. Et ça fait combien de temps que vous êtes en RDC ?
Écoutez, la société Memnon, effectivement, est basée en Belgique. Précisément à Bruxelles. En Afrique, en fait, je dirais, surtout en République démocratique du Congo, c'est depuis juin 2006.
Quelle est la situation des archives en RDC ?
Je vais vous dire franchement que moi-même, je ne connaissais pas très bien l'Afrique, surtout l'état de ces archives, avant d'arriver justement moi-même ici en République démocratique du Congo en 2006. Et j'ai sillonné pas mal des institutions congolaises, en commençant par les institutions du ministère de la Culture et des Arts, c'est-à-dire les archives nationale, la Bibliothèque nationale et le Musée national du Congo. Et je peux vous dire en un mot que c'est dans une situation catastrophique et alarmante pour leur pérennité. Si on n'y prête pas garde maintenant, je pense que d'ici 3-4 ans, la population congolaise sera complètement coupée de son histoire.
Quelle est la situation des musées nationaux ? Nous avons écouté Stella Mandaïla, le professeur Joseph Ibongo, qui est le directeur général de cette institution qui nous dresse un petit bilan.
Il faut avouer qu'il y a quelques problèmes de conservation. Et je ne vais pas alarmer les auditeurs en disant que le patrimoine est en péril, mais je pense que le patrimoine, si on ne fait pas attention, il risque d'être en péril. Parce que les conditions de conservation, effectivement, ne sont pas meilleures. Vous avez un riche patrimoine, ça qui est paradoxal. Vous avez 45 000 objets de diverses natures, des objets ethnographiques, en bois, en poterie, et en métal, en pierre, vous avez des tableaux d'art, mais vous avez également des enregistrements des musiques traditionnelles, qui est un fond du patrimoine culturel immatériel, mais qui n'est pas bien conservé, qui ne sont pas sur les supports adéquats. Et donc, ça nécessite d'autres supports pour une meilleure conservation. Ça suppose également des meilleures infrastructures pour mieux conserver ces riches patrimoines. C'est maintenant que nous commençons à avoir des visiteurs, mais l'ensemble de la société méconnaît le patrimoine. Et c'est à ce niveau que je disais qu'il y a des espoirs, parce qu'il y a des perspectives heureuses qui vont faire de sorte que nous ayons un public important à bien visiter les collections nationales.
C'est là, Mandaï, la situation des archives en Afrique est catastrophique, vous l'avez dit. Est-ce parce que nous, Africains, sommes habitués à la tradition orale ?
C'est un petit peu ça aussi, mais je dirais d'abord que au niveau de l'Afrique, ça ne fait pas partie de la culture africaine de pouvoir veiller à ce que ces archives, donc ces patrimoines riches, culturels, soient conservés comme il faut. Je dirais aussi qu'il y a des institutions, comme les musées par exemple, qui essayent justement, de tant bien que mal, de pouvoir conserver ou sauvegarder les archives qui se trouvent donc dans leurs institutions, dans des locaux qui sont plus ou moins adéquats. Mais, en général, au niveau de l'Afrique, il y a vraiment un sérieux problème de la culture, de la sauvegarde du patrimoine. Ce n'est pas une priorité et ce n'est pas vraiment un problème qui est d'actualité et qui nécessite justement l'attention de tout le monde. Et c'est pour ça, justement que le patrimoine n'est pas bien conservé au Congo. C'est vraiment un problème de culture.
Et que compte faire maintenant dans ce cadre en RDC?
Mais écoutez, je dirais que bon, on est là depuis le juin 2006. Nous avons d'abord commencé par faire un état des lieux pour savoir si il existait des archives au niveau du Congo. Et c'est que nous avons, je peux répondre que oui, les archives existent. Et c'était aussi pour faire un état des lieux par rapport à tout ce qui existe, dans quel état sont conservés, etc. Et nous avons donc visité pas mal d'institutions congolaises et nous avons fait le même constat pour dire que il y avait énormément d'archives, que ce soit les archives sonores, audiovisuelles, papier cartographique et photographique. Mais malheureusement, je dirais, les lieux de conservation ne sont vraiment pas adéquats et donc malheureusement, ces archives sont en train de se détériorer. Bon, alors, qu'est-ce que Mamnon compte faire? Mamnon, sa spécialité, c'est donc la technique de la numérisation. La numérisation, c'est tout simplement le fait de récupérer les informations qui sont contenues dans des archives analogiques, telles des bandes lisses, des bandes immatiques, des cassettes VHS, et de les transcoder dans des supports numériques pour pouvoir mieux les préserver et aussi de créer des bases de données pour que, une fois que les archives sont numérisées, qu'on puisse alors à ce moment-là les lire et les diffuser pour un grand public. Parce que, bon, comme je dis toujours, l'homme ne se limite pas simplement à archiver, à conserver, mais plutôt aussi à valoriser ces archives et à permettre leur diffusion.
Et au niveau de la RDC, le partenariat de Mamnon, c'est seulement avec les archives nationales ou il y a d'autres entreprises?
Non. Mamnon a pu visiter quelques institutions congolaises. Je peux les citer. Donc, nous avons commencé par le ministère de la Culture et des Arts, avec donc ces institutions spécialisées, les musées nationaux, les archives nationales, la bibliothèque nationale. Nous avons visité l'hôtel des villes, avec ses divisions urbaines de la culture et des arts, les divisions de l'intérieur et de la justice, la garde des Sceaux, service de presse de l'hôtel de ville. Nous avons visité les archives, je dirais, de l'Assemblée nationale. Nous avons un contact avec la présidence de la République, parce que là aussi, il y a des archives, de toutes sortes, sonores, papier. Nous avons visité le ministère des Finances. Là, c'est plus spécialement les archives papier. Et nous avons aussi visité le ministère de la Communication et des Médias, donc la RTNC, et là aussi, il y a des archives. Et ensuite, nous avons fait, je dirais, un petit tour du côté des ministères de l'enseignement supérieur et universitaire et des ministères de l'inspection générale, inspection provinciale du ministère de l'EPSP. Et donc là, ce sont quelques institutions que Mamnon a ciblées, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et on s'est rendu compte que là aussi, il y avait, je dirais, une quantité importante des archives, que ce soit sonore ou audiovisuel.
Y a-t-il déjà des contrats palpables?
Oui, bien sûr. Donc, d'abord, on a signé un contrat, donc une convention, pardon, des partenariats avec les musées nationaux. Et là, on a fait un projet pilote. Et le projet pilote consistait tout simplement à montrer donc ce que Mamnon savait faire concrètement. Alors, deuxièmement, nous venons donc de signer encore un deuxième contrat avec la RTNC, donc la Radio-Télévision Nationale de Congolais. Et nous espérons signer encore d'autres contrats. Nous sommes en train de parler, par exemple, avec l'Assemblée nationale. Si tout va bien, nous pourrons alors à ce moment-là signer encore un contrat avec cette institution. Et donc, c'est pour dire que les choses commencent à se préciser. Nous avons des contrats et je dirais en quelque sorte que le travail a déjà commencé puisqu'on a déjà fait une partie du travail avec le Musée national.
Ne va-t-il pas se poser un problème de remise à niveau des fonctionnaires de ces institutions?
Tout à fait. Nous avons aussi constaté que ben, c'est vrai qu'au Congo, on dit que les archives sont conservées dans un état catastrophique, c'est vrai, mais je peux vous dire qu'il y a des techniciens dans toutes les institutions que nous avons visitées qui continuent justement malgré tout à faire de leur mieux pour pouvoir conserver ces archives, même si elles sont dans un mauvais état. La technique de la numérisation, c'est pas quelque chose qui est connu en Afrique. Et donc, par rapport à ça, nous avons prévu dans tous nos contrats deux volets. Donc, il y a le volet formation, parce que ces personnes qui vont devoir travailler sur les archives numérisées doivent normalement suivre une formation pour le renforcement de leurs capacités. Donc, ce sont des techniciens qui travaillent déjà dans la gestion du patrimoine culturel, mais en tout cas, pour faire ce travail-là, comme maintenant on le fait, ils ont besoin de renforcement de leurs capacités. Et c'est prévu dans le contrat.
Et il y a déjà quelques techniciens qui suivent la formation. Nous allons écouter Stella Mandaïla, Augustin Bicalé, l'un d'eux qui nous donne le condensé de ce qu'ils ont suivi.
Nous sommes allés apprendre les techniques de sauvegarde du patrimoine culturel en numérisant les collections ou les archives sonores qui sont conservées à l'Institut des musées nationaux. Et la technique consistait à partir des bandes magnétiques
pour transcoder les informations sur des supports modernes numériques.
Pour arriver à faire tout ce travail, qu'est-ce que vous avez amené du Congo?
Du Congo, nous avons amené nos collections. Une partie de nos collections d'archives sonores. Quelques bandes ont été amenées à Bruxelles, sur lesquelles nous avons pu faire le travail après formation et pour ramener les mêmes informations qui étaient sur les bandes magnétiques sur des supports numériques modernes. Désormais, le musée peut être sûr d'avoir les capacités de numériser et de conserver de façon beaucoup plus confortable ces archives.
Stella Mandaïla, ça fait 2 ans que maman est installée en RDC. Êtes-vous implantée aussi en province?
Non, comme on dit, ça fait seulement 2 ans que nous avons commencé. Et je pense que pour une société, une PME comme nous, nous avons préféré d'abord commencer dans la capitale de la République démocratique du Congo, donc Kinshasa. Nous avons ouvert nos bureaux depuis 2007, ici à Kinshasa. Donc nous sommes situés sur, les environs de Chani Beta. Nous avons un bureau là-bas, avenue Colonel Modjiba, dans les centres d'affaires de Chani Beta.
Vous employez à peu près combien de personnes?
Écoutez, pour le moment, nous avons commencé avec 2 collaborateurs, 2 consultants locaux que nous avons trouvés ici, qui nous ont beaucoup aidés. Et alors, dans le futur, nous comptons vraiment avoir une structure plus importante que ce que nous avons maintenant. Et alors, à ce moment-là, on pourrait voir aussi, en fonction du travail qu'il y a à faire, combien de personnes on pourrait engager. Dans l'immédiat, en fait, on a 2 collaborateurs qui travaillent avec nous, et je pense que jusque-là, c'est suffisant.
Radio Capi, grand témoin.
Elle est la chargée d'affaires et responsable Afrique centrale du bureau de même nom, une société belge spécialisée dans la sauvegarde et la valorisation des archives sonores. Stella Mandaïla Guilombo est aujourd'hui l'invitée de Grand Témoin. Stella Mandaïla, vous l'avez dit, vous voyez le jour à Bongayasa, dans le Bandundu. Comment vous arrivez en Europe, en Belgique?
C'est vrai que je suis née dans le Bandundu, à Bongayasa plus précisément, que je n'ai vu le jour. Je suis arrivée à Kinshasa, j'étais encore bébé. C'est après avoir fait mes études primaires ici que mon papa a été envoyé en Europe pour une formation.
Les études primaires, c'était dans quelle école?
C'est dans une école protestante à la commune de Lemba. Donc j'ai fait l'école primaire là-bas. Et alors juste après, notre famille était obligée de rejoindre
le papa.
Le papa qui était parti en Europe pour une formation.
Et quand vous arrivez en Belgique, vous évoluez comment et dans quelle école?
Bah, écoutez, j'ai continué. J'ai étudié à l'Institut Saint-Boniface. Je venais d'arriver. Je ne parlais pas encore, la langue de Voltaire convenablement. Donc c'était un peu difficile. Et donc j'ai fait plutôt l'Institut Saint-Boniface, qui est un institut assez réputé. Et là, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal pour m'adapter. Et donc après une année, puisqu'on est arrivé quand même au mois de décembre, le collège a déjà commencé depuis septembre. Et donc j'avais déjà un retard. Et par rapport à ça, donc l'année après, nous avons dû devoir changer d'institution. Donc je suis partie à l'Institut Mercellis, toujours à la commune d'Ixelles, à Bruxelles. Et puis j'ai fait l'Institut Saint-Adrien, parce que j'étais assez turbulente. Et donc je ne pouvais pas rester, j'étais pas correcte à l'école.
Conduite peu recommandable.
Voilà. Non, pas ça quand même. Non. J'étais une petite turbulente, je vais dire. Et j'avais une bande de copines avec qui on n'était pas très sage. Et c'est ce qui a fait que nous avons dû changer souvent d'institution. Donc j'en ai fait 4. J'en ai fait 4, donc toujours à Bruxelles. Et puis voilà.
Et à l'université?
Alors, une fois que j'ai fini, j'ai été à l'Université francophone internationale, ancien ICEP. Et là, je fais 4 années d'université. Donc, je fais relations publiques et internationales. Et puis après, j'ai combiné avec le cours du soir au campus de Syria, où je fais donc un post-graduat en gestion des ressources humaines.
Quand est-ce que vous avez acquis la nationalité belge? Ça vous gêne quelque part qu'on dise, vous, que vous êtes belge d'origine congolaise?
Pas du tout. Parce que, je vous ai dit que je suis partie en Belgique à l'âge de 13 ans. Et donc, je dirais que je fais presque une grande partie de ma vie là-bas. Et donc, la Belgique, c'est mon pays d'adoption. Et c'était pas facile au début. Mais après, je me suis adaptée. Et puis après, l'occasion s'est présentée pour que je puisse demander la nationalité belge. Surtout à l'époque, c'était pas facile pour des personnes étrangères de trouver du travail. Et donc, c'était aussi quelque part, je dirais, une des raisons qui m'a poussée à demander cette nationalité belge. Donc, je peux dire que ça fait déjà plus de 15 ans que je suis cette nationalité.
Quelle est votre perception par rapport au débat sur la double nationalité en RDC?
Oui, je n'ose pas trop m'avancer par rapport à ça, parce que bon, si j'étais congolaise avec la nationalité congolaise, j'allais peut-être être catégorique dans ma réponse en disant que non, il ne faut pas la double nationalité. Mais bon, étant donné que moi j'ai évolué dans un autre pays, j'ai acquis la nationalité de ce pays qui est mon pays d'adoption, et quelque part j'ai quand même mes origines congolaises, et je suis un peu à cheval entre les deux, et j'aurais voulu que la loi, je dirais, sur la double nationalité soit revue par les autorités pour permettre à des personnes qui aimeraient justement retrouver leur nationalité d'origine puissent le faire. Mais bon, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne peut peut-être pas accepter ou décider que la double nationalité soit acceptée au niveau du Congo, et donc je comprends tout à fait, hein. Mais je me dis, bon, ça ne me dérange pas du tout qu'on m'appelle belge, bien que moi-même, au fond de moi, je sais très bien que j'ai mes origines d'ici, et donc ça ne me gêne pas du tout.
Après vos études universitaires, vous vous lancez dans la profession, qu'est-ce que vous faites avant d'arriver à Memnam?
Écoutez, j'ai fait beaucoup de choses, comme pas mal de Congolais de la diaspora. Donc, il fallait d'abord, j'ai fait des jobs d'étudiant, comme tout le monde, pendant que j'étais aux études. Et pour payer mes études, c'était pas facile en Belgique. Et donc, voilà. Et finalement, je suis quand même arrivé à terminer mes études. Et donc, j'ai commencé à chercher du travail comme tout le monde. Et je pense que c'est même à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions si je ne devais pas changer de nationalité, parce que, comme je vous ai dit, c'était pas facile. Et donc, voilà, j'ai eu ma nationalité. Et tout de suite après, donc, j'ai postulé dans plusieurs entreprises. Et finalement, j'ai travaillé comme agent d'assurance. Donc, j'ai fait un petit peu, j'ai dirais une sorte de courtier d'assurance dans une société hollandaise qui s'appelle Dela Assurance.
Nous avons contacté quelqu'un qui vous connaît, c'est la Mondaïla. Nous allons lui donner l'occasion de se présenter.
Moi, je m'appelle Sébastien Luzanga Chiamandevu, ancien ministre, député honoraire et aujourd'hui secrétaire exécutif de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives. Madame Stella Mandaïla, c'est ma nièce en français, mais je peux dire moi en anglais, tout ce qui doit parler en lingala. Ma nièce, c'est la fille de mon grand frère, de mon frère aîné. Ce sont les enfants que j'ai vus, il y a Rita Lenné, il y a elle, Stella, qui est en disposition, il y a la secrétaire d'État Gisèle, il y a Cathy et tout. Ce sont mes enfants, Stella, c'est la deuxième de la famille.
Alors, dites-nous, vous qui avez vu grandir Madame Stella Mandaïla, quel genre d'enfant était-elle?
Très timide, hein. De tous les enfants de mon frère, elle était vraiment très très timide. Et puis elle grandissait par rapport à ses soeurs, elle grandissait, elle était maigrichonne. Elle était maigre par rapport à Rita, par rapport à Gisèle. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. Elle a pris du volume. Parfois, je rigole, j'ai dit, mais tu n'étais pas comme ça. Bon, elle était très timide. Une assez intelligente. La timidité, peut-être que c'était l'intelligence qui s'est cachée en elle, certainement, mais très, très, très calme, voilà.
En tant qu'oncle paternel, qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez elle?
Elle n'est pas appréciée, c'est... Elle a un caractère parfois, disons, péremptoire. Quand elle veut une chose, quand elle a pris sa décision, il faut du temps pour la faire voir autrement, ou la faire réfléchir autrement. Mais généralement, elle campe sur ses positions, parfois ça dérange, elle est vraiment, autoritaire, mais parfois, quand on est en communauté, quand on est en famille, il faut savoir parfois réfléchir, il faut savoir tenir compte des avis des autres, mais quand elle a pris une décision, et quand elle monte sur ses quatre chevaux, là, ça devient difficile de la faire voir autrement.
Elle est avec nous au studio, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
D'abord, je voulais lui dire que je suis content du travail qu'elle a fait. Elle a su faire implanter sa société ici. Je suis content et fier d'elle. Le travail qu'elle a abattu, elle est revenue plusieurs fois opiniâtre, voulant absolument réussir. Bon, elle a réussi aujourd'hui.
Pour terminer ce petit entretien, si vous étiez demandé de lui dédier une chanson, ce serait laquelle?
Oh là là, tout à l'heure, là, ça devait réfléchir. C'est peut-être une chanson religieuse. Hein. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi. Voilà, je crois que c'est Dieu qui l'a bénie, qui fait qu'elle puisse réussir.
Merci Monsieur Luzanga et bonne journée.
Voilà, à vous également.
Réaction Stella Mandaïla, vous avez tellement souri que vous avez les larmes aux yeux, hein.
Ben oui, écoutez, c'est vraiment une grande surprise. J'ai même des larmes aux yeux. C'est vrai que j'ai beaucoup d'émotion d'écouter mon oncle comme ça parler de moi. Et je vous dis franchement que je suis vraiment émue.
Très ému, hein, à se voir. Envoyez-lui un petit message en direct.
Ben, que je lui dirai tout simplement que je l'aime.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir des 7h, heure de Kinshasa.
Stella Mandaïla, je rappelle que vous êtes chargée d'affaires et responsable Afrique centrale du bureau de même nom, société belge spécialisée dans la sauvegarde et la valorisation des archives sonores. Nous tendons vers la fin de cette émission. Quelles sont les perspectives de même nom pour l'Afrique ou la RDC?
Ben écoutez, je dirais tout simplement les perspectives d'un homme, c'est de pouvoir élargir sa structure en République démocratique du Congo, c'est-à-dire avoir beaucoup de contrats avec presque toutes les institutions congolaises pour pouvoir vraiment faire ce travail qui pour moi me semble être un travail nécessaire et important pour les institutions congolaises, parce que comme je disais tout à l'heure, si on n'y prête pas garde par rapport à toutes ces archives qui sont en train de se détériorer, je pense que la population de la République démocratique du Congo sera coupée complètement de son histoire. Et on ne peut pas parler du développement sans la culture. Il faut absolument que le gouvernement s'implique pour qu'on puisse permettre à ces institutions qui détentrices des archives de pouvoir faire le travail comme il faut. Alors maintenant, les perspectives de Mamnam, bon, là on vient de signer, déjà on a déjà deux contrats à notre actif, et nous aimerions bien signer aussi avec l'Assemblée nationale, la présidence, les universités congolaises pour pouvoir commencer réellement le travail. Et donc je pense que d'ici deux ans, Mamnam pourra alors à ce moment-là mettre ses installations ici sur les terrains pour pouvoir faire le travail et alors aussi intéresser d'autres pays d'Afrique centrale qui viennent ici en République démocratique Congo pour faire ce travail-là. Ce sont vraiment les perspectives de Mamnam.
Alors qu'en est-il du forum sous-régional des pays francophones post-conflit de l'Afrique centrale prévu à Kinshasa en août 2008?
Mais écoutez, ça c'est une idée qui a été initiée par la conseillère principale du chef de l'État, Mme Chantal Safou, en discussion toujours avec la société Mamnam. Et alors suite à ça, donc, nous avons intéressé le ministère de la Culture et des Arts qui a adopté donc, le projet. Et je pense que c'est un forum qui va réunir trois pays d'Afrique centrale post-conflit, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et la République du Congo-Brazzaville. Et lors de ces forums, ça sera vraiment pour parler de la sauvegarde, surtout la problématique des archives au niveau de ces trois pays post-conflit. Vous savez que les guerres ont complètement décimé les archives de ces trois pays. Et il y a d'autres institutions, par exemple, on ne retrouve même plus les archives des pays concernés. Et donc nous, on a voulu, par ces forums, pouvoir interpeller les autorités de ces trois pays pour qu'ils puissent justement prendre en compte cette problématique et voir aussi quelles sont, je dirais, les choses à faire pour qu'on puisse justement sauvegarder ces archives. Donc c'est un forum normalement qui doit se passer ici en République démocratique du Congo, organisé par le ministère de la Culture et des Arts en collaboration avec Mamnam Archiving Service au mois d'août. Donc on est encore en pourparler pour la date, mais je pense que d'ici là on vous donnera un peu plus de détails par rapport à ces forums. Mais en tout cas, je suis contente de voir que vous parlez de ces forums, parce que jusque-là je n'en ai pas parlé, parce qu'on était en discussion, mais on est déjà en train de travailler au niveau du ministère de la Culture et des Arts. Nous avons déjà fini le travail, maintenant on n'attend plus que d'avoir à concrétiser donc ces grands forums.
C'est l'étoile du berger. Vamos, Paolo, Paolo. A very old man, ouais. Oh, so good, Papa. I'm 1944 de Bruxelles. Le bal express par
Mama,
complètement cette émission, les directeurs des entreprises publiques et privées qui nous suivent et qui ont besoin des services de Mainmonde, peuvent-ils vous contacter ou c'est seulement Mainmonde qui va vers eux?
Non, maintenant j'aimerais vraiment que le travail se fasse dans l'autre sens. Quand je suis arrivée ici en République démocratique du Congo, c'est moi qui suis allée vers ces institutions pour proposer les services de Mainmonde, expliquer aux autorités qu'est-ce que nous faisons, etc. Maintenant, je pense que il y a beaucoup des institutions qui sont déjà au courant de ce que nous faisons. Et donc maintenant, j'attends vraiment à ce que tous ces responsables puissent me contacter au 081 29 39 713, c'est la Mandaïla, pour pouvoir discuter avec eux, voir dans quelle mesure nous pourrons collaborer, parce que je sais qu'au niveau de la République démocratique du Congo, le travail n'a pas encore été fait au niveau de l'archive.
C'est la Mandaïla, merci d'être venu à Grand Témoin.
Merci à vous.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Stella Mandaïla Guilombo, chargée d'affaires et responsable Afrique centrale du bureau de Mainmonde, une société belge spécialisée dans la sauvegarde et la valorisation des archives sonores. Merci à Mimi Kindou qui a été à la technique et qui a assuré la réalisation de cette émission. Retrouvez cette émission sur www.radiocapi.net où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. À la présentation, Alain Hirong, nous vous disons au revoir.